Travailleuses, travailleurs, camarades et amis, plus ça va et plus on se dit que ce n'est pas possible, que ça ne peut pas continuer avec tout ce chômage, ces sacrifices et cette misère. Et tout ce que le gouvernement prétendument socialiste trouve à dire, c'est que si cela doit continuer, et ça va être plus dur. Nous vivons au-dessus de nos moyens depuis des décennies, a même déclaré Valls, en annonçant une nouvelle série d'attaques contre le niveau de vie des classes populaires. Mais qui vit au-dessus de ses moyens? Les retraités, à qui on vole toute une part de leur pension depuis des années? Les chômeurs, privés de boulot? Les travailleurs qui sont à découvert le 10 du mois? Le plan Valls est une véritable provocation contre le monde du travail. Ces 50 milliards pris dans la poche des classes populaires pour en donner près de 40 au patronat, à ce grand patronat qu'on voit en train de faire de grandes manœuvres dans la téléphonie ou dans l'énergie à coups de milliards. Eh bien, il faut dire qu'on n'est pas dupe et qu'on n'est pas d'accord. Si Valls semble aussi sûr de lui, malgré la raclée électorale des municipales et le désaveu donc de son propre électorat, c'est qu'il ne rencontre pas d'opposition à gauche digne de ce nom. Ce ne sont pas les états d'âme des 41 parlementaires de la gauche du Parti Socialiste qui se sont abstenus qui gêneront Valls. Et ce, d'autant plus que ce qu'il perd sur sa gauche, il le gagne à droite. Quant à l'opposition formée par le Front de Gauche, par les dirigeants du Parti Communiste et du Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon, elle ne voit de salut qu'en se raccrochant à ce genre de godillot du Parti Socialiste et aux écologistes qui ont certes quitté le gouvernement, mais qui reste dans la majorité. Et du côté des chefs des confédérations syndicales, ce n'est pas mieux. La provocation de Valls aurait exigé une riposte immédiate. À la place, les travailleurs n'ont eu droit qu'aux lamentations et aux pleurnicheries de Berger, Le Pont et Mailly sur le manque de dialogue social. Ces gens-là se posent en représentants du monde du travail, mais ils sont mille fois plus proches des dirigeants de la bourgeoisie qu'ils ne le sont des travailleurs. Voilà leur vraie nature. Et leur lâcheté est une lâcheté sociale. Pour les forcer à prendre des initiatives sérieuses, il faudra, comme à chaque explosion sociale, que la colère et la combativité des travailleurs les poussent en avant. Alors, malgré toutes leurs limites, il faut que les travailleurs les plus combatifs et les plus conscients profitent des occasions fournies par les confédérations pour exprimer leur refus de la politique du gouvernement et pour exprimer leurs exigences. La manifestation du jeudi 15 mai, appelée par les syndicats de la fonction publique, sera une occasion à saisir. Les dirigeants syndicaux de la fonction publique ne sont pas plus radicaux que les autres. Mais il se trouve qu'ils avaient lancé cet appel de longue date pour protester contre le gel des salaires. Avec l'annonce de Valls, ce gel des salaires de la fonction publique est même... a donc été prolongé jusqu'en 2017. Il y aurait donc 7 ans de gel, de blocage des salaires dans la fonction publique. Eh bien, cet appel tombe à point. Mais dans ce contexte actuel, cette manifestation peut aussi être le point de ralliement pour tous ceux qui veulent dénoncer le plan Valls et ses attaques tous azimuts. Elle peut être le point de ralliement de tous ceux qui ont compris que nous sommes tous attaqués, que l'on soit dans le public ou dans le privé. Car pourquoi le patronat se gênerait-il pour bloquer les salaires quand l'État montre l'exemple? Que l'on soit au chômage, à la retraite ou en activité, nous serons tous touchés d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas par le gel de notre salaire, ce sera par le gel de notre pension, ou si ce n'est pas par ce biais-là, ce sera par le blocage des allocations logement familiales, ce sera par les restrictions des services de santé ou autres services publics. Beaucoup font le calcul de ce que leur coûtera le gel des prestations sociales, des pensions ou de leur salaire, et mesurent très concrètement les sacrifices qui vont en découler. Mais cela ne représente que 2 milliards d'économies sur l'ensemble des 50 milliards prévus. Alors, nous n'avons encore qu'une toute petite idée de ce qu'il nous en coûtera si on se laisse faire. Éric a décrit la brutalité des attaques subies en Grèce, en Espagne. Si le monde du travail ne s'y oppose pas ici, eh bien nous prendrons le même chemin. Alors, où que nous travaillons, faisons en sorte d'être le plus nombreux possible à participer à cette journée du 15 mai. Tant que Valls n'a affaire qu'à des hommes de gauche complices et à des dirigeants syndicaux pleutres, les mouvements de menton lui suffiront pour passer en force. Mais si demain, le désaveu des classes populaires qui s'est exprimé dans les élections s'exprime aussi dans la rue, il en ira tout autrement. Dans tous les cas, les travailleurs doivent profiter de la campagne électorale des européennes pour se faire entendre. Aux élections municipales, nous avons présenté dans les villes où nous l'avons pu des listes lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs. Et une fraction modeste de la classe ouvrière a voté pour ces listes, pour rejeter la politique du gouvernement et dénoncer du même coup l'exploitation patronale. Eh bien, les européennes leur donnent l'occasion de refaire le même geste, d'affirmer qu'ils sont toujours là, de montrer qu'il y a des travailleurs qui refusent de laisser le terrain électoral à la bourgeoisie et qu'ils continueront de faire entendre leurs exigences. Sur le chômage, sur les services publics, sur la dette, sur la compétitivité, les travailleurs ont à mettre en avant leur politique propre, qui est aux antipodes de celle de la bourgeoisie. C'est vrai aussi sur l'Europe. Sur l'Europe, les politiciens de la bourgeoisie vont nous enfumer avec leurs débats sur le protectionnisme. Ils vont gloser sur l'élargissement ou sur le rétrécissement de l'Union européenne. Beaucoup, au premier rang desquels le Front National, vont nous dire que tout est de la faute de Bruxelles, qu'il faut considérer les travailleurs des autres pays d'Europe comme des concurrents, des adversaires, des ennemis. Des adversaires, ceux qui, aux quatre coins du monde, subissent le même sort que nous, les mêmes licenciements, les mêmes blocages des salaires, la même démolition des services publics. Des ennemis, ceux qui sont comme nous sous le diktat des banques et des grands groupes. Des concurrents, ceux qui viennent travailler sur les grands chantiers de construction en France. Non, des travailleurs comme nous tous ici, des exploités, bien forcés d'aller où ils peuvent pour gagner leur croûte. La classe ouvrière, par nature, est internationale. Partout où le capitalisme s'est imposé, il a généralisé la condition d'exploité à l'immense majorité de la population. La classe ouvrière existe non seulement à l'échelle de tous les pays, mais elle est mélangée depuis toujours. Il est aujourd'hui beaucoup question des travailleurs détachés, roumains, bulgares, qu'on voudrait nous présenter comme nos concurrents. Mais combien de paysans italiens, algériens, marocains ont été détachés de leurs champs tout au long du XXe siècle pour venir travailler dans les mines, sur les ports, dans les usines de montage? Au XIXe siècle déjà. Londres, Paris, les grands chantiers de construction de chemins de fer ou les régions minières étaient des points de rassemblement de travailleurs français, allemands, anglais, irlandais, belges, polonais. Comme aujourd'hui, la bourgeoisie a toujours cherché à profiter de la misère ouvrière pour mettre en concurrence les travailleurs, pour casser les salaires et aggraver l'exploitation. Mais les travailleurs n'en sont pas restés à se regarder en chien de faïence. Ils y ont répondu de la seule manière possible, en s'organisant et en combattant ensemble. Le mouvement ouvrier est à l'image de la classe ouvrière. Il a toujours été international. Sur les barricades de 1848, les gavroches ont côtoyé les ouvriers italiens, allemands, suisses, belges. Le premier gouvernement ouvrier, la Commune de Paris, de 1871, avait nommé à sa direction un Hongrois, Frankel, et avait nommé un Polonais, Dombrowski, à son commandement général. La première grande organisation ouvrière fut l'Association internationale des travailleurs, créée à Londres en 1864, sur la base de liens existants entre les ouvriers de toute l'Europe. Karl Marx résuma son but en deux phrases. L'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, et prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et c'est sur cette base que se développèrent dans les années suivantes les premiers partis ouvriers nationaux. Pour les dirigeants qui étaient Marx, Engels, Lénine ou Rosa Luxembourg et dont l'internationalisme était chevillé au corps, Il était évident que le combat des travailleurs était un combat international. Mais ça l'était aussi pour un grand nombre de militants. Un combat international symbolisé entre autres par la journée du 1er mai, où il s'agissait pour les travailleurs du monde entier de manifester le même jour, de faire grève le même jour, en bravant les interdits patronaux et en s'affrontant bien des fois aux troupes armées qui étaient promptes à tirer sur les manifestants. Le 1er mai était bien plus qu'une journée revendicative au cours de laquelle les ouvriers demandaient la journée de 8 heures. C'était aussi une démonstration de force de la classe ouvrière à l'échelle du monde. C'était la démonstration que les travailleurs organisés étaient une force politique capable de s'allier et de se coordonner pour contester le pouvoir à la bourgeoisie. Oui, la conscience de classe va de pair avec la conscience internationaliste. C'est la conscience qu'au-delà de leurs différences, au-delà des nationalités et des frontières, les travailleurs ont les mêmes intérêts et forment une seule et même classe sociale. C'est la conscience que ce qui oppose les hommes, ce ne sont pas les frontières géographiques, mais les frontières sociales, les frontières de classe qui divisent la société en exploités d'un côté et en exploiteurs de l'autre. C'est le rejet du nationalisme, c'est le rejet du chauvinisme. Cette conscience, elle n'est pas innée. Elle se transmet et elle se construit. Et ce fut justement le rôle des organisations ouvrières dans le passé. Ce qu'elles ne font plus aujourd'hui, en se plaçant comme les politiciens bourgeois sur le terrain du nationalisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de l'extrême droite jusqu'au front de gauche inclus, tout le monde aborde les questions de l'Europe ou des relations internationales d'un point de vue national. Qu'est-ce qui sera bon pour la France? Qu'est-ce qui sera bon pour l'économie du pays? Mais autant se demander ce qui sera bon pour Bouygues, pour Peugeot, pour Bettencourt, car les intérêts de la France sont toujours les intérêts de la bourgeoisie française et jamais ceux des travailleurs et des plus pauvres. Eh bien, les travailleurs conscients doivent opposer à tout ce monde-là leur point de vue de classe et leur internationalisme et se demander qu'est-ce qui est bon pour les travailleurs et qu'est-ce qui est bon pour tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité et leur origine. L'internationalisme n'est pas qu'une question de solidarité entre exploités. Ce n'est pas non plus qu'une question d'efficacité dans le combat. C'est la seule issue pour l'humanité. C'est la conviction que les travailleurs ne pourront pas s'émanciper dans un seul pays. Et c'est la conviction que les luttes des travailleurs dans quelques pays que ce soit font avancer le sort de tous. C'est la conviction que le combat des uns est le combat de tous. Il n'y a pas de société plus folle que cette société capitaliste. Pourquoi sommes-nous plongés dans une crise dont personne ne voit le bout? Pas parce qu'il manque des bras pour produire, des millions de travailleurs sont condamnés au chômage. Pas parce qu'il manque des usines, des dizaines, si ce n'est plus, sont fermées chaque jour en Europe. Et pas parce qu'il manque des capitaux. Des milliards sont gâchés, dilapidés dans des dépenses extravagantes, ou pire, dans la spéculation. Près d'un milliard de personnes sont condamnées à la sous-alimentation et menacées de famine dans le monde. Alors que nous produisons de quoi nourrir deux fois la population de la planète. Des centaines de millions d'êtres humains sont privés de l'accès à un logement digne de ce nom, à des soins convenables, à la culture, voire simplement à de l'eau potable. Et pourquoi? À cause des lois du capitalisme. Parce que les capitalistes ne produisent que pour ceux qui sont solvables, parce qu'ils n'investissent que dans ce qui est le plus rentable, parce qu'ils préfèrent le gain rapide de la spéculation à celui moindre de la production. Et parce qu'au lieu d'organiser rationnellement la production et de savoir ce qu'il faut produire, où et comment, les capitalistes sont lancés dans une concurrence à mort. L'économie capitaliste étouffe sous le coup de ses propres contradictions. Elle étouffe sous l'effet de la loi du profit, de la propriété privée et de la concurrence. Mais à toutes ces contradictions internes, se rajoute le morcellement du monde en états nationaux, alors que l'économie est internationalisée depuis déjà bien longtemps. La seule issue pour l'humanité est de renverser le capitalisme est de fonder l'économie sur des bases collectives. Mais cette économie ne peut pas fonctionner autrement que sur une base mondiale. Faut-il rappeler que sans le commerce avec l'Afrique, avec l'Asie et le Moyen-Orient, sans le commerce triangulaire et la traite esclavagiste au XVIIe et XVIIIe siècle, il n'y aurait pas eu de révolution industrielle. Cette première mondialisation, qui a été l'œuvre de la bourgeoisie montante, s'est faite de rapines, de pillages et de meurtres à grande échelle. Mais elle a été à la base du développement même du capitalisme et de l'industrie. Et depuis lors, les échanges internationaux n'ont fait que s'intensifier. Les capitaux se sont mêlés, les travailleurs aussi. Le marché est devenu mondial. Les agriculteurs se fournissent et vendent sur le marché mondial. La moindre usine travaille pour ou avec les entreprises étrangères. Et pour être fabriqué, le moindre produit nécessite une chaîne d'échanges internationaux. Et bien malin, celui qui voudrait consommer 100% de français. Un journaliste s'y est frotté en essayant de vivre un an made in France. Il s'est débarrassé de 95% de son mobilier et de ses appareils électriques. Il a remplacé le café et le thé par la chicorée et le jus de pomme. Grand déchirement, paraît-il, il a dû se passer de ses jeans, de son réfrigérateur et de son coupe-ongle. Plus aucun n'étant fabriqué en France. Et il a dégoté une vieille mobilette. Mais il n'est pas allé jusqu'à chercher avec quel acier et quel bois était fabriqué son opinel. Quant à sa mobilette, elle ne roulait sûrement pas au vin rouge. Et pas fou non plus, il n'a pas poussé son expérimentation jusqu'à rechercher une énergie 100% française, ce qui l'aurait peut-être forcé à s'éclairer à la bougie, à supposer qu'il y ait même des bougies et des allumettes 100% françaises. De toute façon, même édulcorée, son expérience ne risque pas de faire des émules. Mais reconnaissons-le, il a au moins eu le mérite de payer un peu de sa personne. Quand un Montebourg, chantre pourtant du Made in France, s'est contenté, lui, de porter une marinière pendant 3 minutes, le temps de la photo. La mondialisation, c'est un fait. L'imbrication de l'économie à l'échelle de la planète est telle qu'il est impossible de revenir en arrière sans imposer des privations sans fin et une régression effroyable. Produire chacun chez soi, installer des usines sidérurgiques dans la Creuse, en Creuse par exemple, ou cultiver des oranges en Grande-Bretagne, c'est bien sûr une idée réactionnaire et une stupidité. Ce sont les échanges de matières premières, de technologies, de produits, de capitaux, d'idées et d'hommes qui irriguent l'économie et qui lui permettent d'avancer. Bien sûr, cette économie avance surtout au profit d'une minorité. Mais s'il y a quelque chose à changer, c'est cela. Ce que les travailleurs ont à combattre dans la mondialisation capitaliste, ce sont les rapports de domination, le pillage, le sous-développement et les répercussions néfastes qui en découlent sur l'environnement et sur la planète. Ce que les travailleurs ont à combattre dans la mondialisation capitaliste, ce n'est pas la mondialisation, c'est le capitalisme. Montebourg ressemble à ces bonimenteurs de foire, payés pour raconter et pour vendre n'importe quoi à des gogos. Parce que son histoire de patriotisme économique, c'est ça. Regardez son cinéma autour d'Alstom. Il s'excite et il fait mine d'œuvrer pour l'intérêt supérieur en poussant l'offre de silence. Mais Hollande et Montebourg qui s'agitent savent que la décision ne leur appartient pas. Ils savent que dans cette société, le pouvoir est dans les mains de ceux qui détiennent les capitaux. Et si les grands actionnaires d'Alstom, commencé par Bouygues, actionnaire pour 29% quand même d'Alstom, trouvent plus d'intérêt à vendre à General Electric qu'à Siemens, eh bien ils vendront à General Electric. Et n'en déplaise au gouvernement, à Montebourg et à ses sornettes patriotiques. Des sornettes patriotiques, vraiment. Car ce que ne dit pas Montebourg, c'est que les fameuses turbines à gaz qui ont fait les heures de gloire d'Alstom pendant une décennie, ont été produites sous licence General Electric, c'est-à-dire sous licence américaine. Et ça ne posait pas de problème d'indépendance nationale? Alstom, avec ses 18 000 salariés en France et ses 70 000 salariés dans le monde, avec son activité essentiellement tournée vers l'exportation, n'est pas plus française que General Electric, avec ses 11 000 salariés en France et puis son siège social européen basé lui aussi en France. Et puis qu'il soit français, américain, allemand, chinois ou autre, tous les groupes capitalistes sont à mettre dans le même sac. Et les travailleurs de Belfort en savent quelque chose. Qu'ils travaillent chez Alstom ou chez General Electric, deux usines qui se touchent, eh bien ils ont été confrontés aux mêmes suppressions d'emplois, aux mêmes restructurations, aux mêmes chantages à la compétitivité. Seule différence, General Electric paye mieux qu'Alstom. Comme l'a dit un ouvrier d'Alstom, peu importe la couleur du bleu de travail, l'important, c'est d'en avoir. Alors, laissons tous ces bonimenteurs de foire discourir sur l'indépendance de la France et pleurer sur la perte des fleurons français qui ne sont ni des fleurons ni français, ils sont donc qu'à cela. Bien sûr, il y a de quoi être révolté par ce monopole capitaliste, où les travailleurs sont vendus, achetés, loués, licenciés comme s'ils étaient des pions, et sans bien sûr qu'ils aient leur moindre mot à dire. On peut être que révolté par ce grand monopole où il n'y a que les profits, la rentabilité, les actions en bourse qui comptent. Oui, l'économie et la société sont placées sous la dictature du grand capital. Et cette dictature nous emmène dans le mur. Et pour que les travailleurs et la population en général puissent collectivement maîtriser l'économie et décider de l'avenir de la société, eh bien, il faut renverser cette dictature de l'argent et de la bourgeoisie. Il faut avoir pour perspective le contrôle des travailleurs sur l'économie et la prise du pouvoir politique par les travailleurs. C'est cela, être communiste révolutionnaire. Mais pour en revenir à la mondialisation, les millions de liens économiques, sociaux et humains qui ont été tissés au travers de cette mondialisation sont des liens précieux. C'est la base sur laquelle un système plus productif que jamais s'est développé. Et cela, il ne faut pas le détruire. Mais il faut le maîtriser. Il faut que les travailleurs le reprennent à leur compte, de sorte qu'ils servent à l'humanité tout entière. Cela nécessite de se débarrasser de la dictature d'un nombre restreint de groupes industriels et financiers en concurrence les uns avec les autres, de faire en sorte que ces immenses possibilités scientifiques, technologiques et productives de la société ne soient plus subordonnées à la recherche du profit. Les multinationales, sous le contrôle des capitalistes, ont un grand pouvoir de nuisance. Mais ces mêmes multinationales, mises au service de la population, pourraient être demain des outils fantastiques pour maîtriser notre vie économique, pour l'organiser consciemment, rationnellement, de façon à économiser les ressources, de façon à combattre la pollution et de façon à produire pour toute l'humanité. Aucun des grands problèmes qui se posent à nous aujourd'hui, qu'il s'agisse de nourrir toute la planète, de guérir de maladies meurtrières ou de pourvoir le monde entier en énergie, en transport, en logement ou en éducation, ne peut être résolu avec le repli national. Toutes ces questions se posent désormais à l'échelle de la planète. Et s'il revient aux travailleurs de prendre le pouvoir et d'organiser la production, eh bien c'est à cette échelle-là qu'ils devront le faire. Certains ont pu croire que la construction européenne allait dans ce sens, dans le sens d'une société plus solidaire et plus prospère. Mais la construction européenne n'a pas été l'œuvre d'idéalistes inspirés par le désir de mettre fin aux guerres et de fonder les relations inter-européennes sur l'amitié entre les peuples. Elle a été l'œuvre de banquiers, d'industriels, de marchands obsédés par la concurrence et contraints, pour leurs affaires, de faire sauter un certain nombre d'obstacles. Pour les bourgeois d'Europe, la construction européenne a été tout à la fois une nécessité et une impossibilité. Une nécessité, parce que l'industrie française ou allemande en commençant par l'industrie sidérurgique, ne pouvait pas se développer dans les frontières étroites des marchés nationaux, parce qu'elle ne pouvait pas espérer jouer dans la cour des États-Unis ou du Japon sans faire un grand marché européen. Mais une impossibilité aussi, parce que chaque bourgeoisie voulait bien accéder au marché du voisin, tout en continuant à protéger son propre marché. Parce que chaque gouvernement voulait bien des institutions européennes, tout en gardant leurs prérogatives. Parce que la bourgeoisie, eh bien, elle compte toujours sur la protection de son État, sur le personnel politique qui lui est dévoué, et sur les fonds publics qui lui sont traditionnellement réservés. Le résultat de ces compromis et de cette contradiction, c'est l'Union européenne que l'on connaît. Une espèce de mariage de raison, où chacun fait chambre à part, défend son précaré, et où on ne met surtout pas en commun son compte bancaire. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la construction européenne est une histoire longue et compliquée, dans laquelle il faudrait d'ailleurs inclure les deux guerres mondiales, car elles ont aussi été des tentatives d'unifier l'Europe. Et regardez cette lenteur. Après 30 ans de construction, l'Union européenne ne comptait que 12 membres. Au bout de 60 ans, aujourd'hui, elle en compte 28. Mais elle n'englobe toujours pas toute la moitié orientale de l'Europe. La Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, sans parler de la Turquie. Et si des voix s'élèvent aujourd'hui, ce n'est pas pour élargir l'Europe. C'est au contraire, pour la rétrécir. Et l'attitude des dirigeants européens vis-à-vis de l'Ukraine est éloquente. Oh, ils affichent leur solidarité avec le nouveau gouvernement de Kiev. Mais ils laissent les frontières de l'espace Schengen bien fermées pour les Ukrainiens. Et ils n'ont nullement envie de les intégrer dans l'Union européenne. Même de son point de vue, et même pour ses intérêts, la bourgeoisie est incapable de faire l'unité de l'Europe. Quant au fait qu'en 60 ans de construction, rien n'est avancé sur le terrain des droits démocratiques et sociaux, il ne faut pas en être surpris. L'Union européenne a été conçue et créée par et pour les intérêts des groupes capitalistes. Il n'a jamais été question de créer un espace où les salaires, les droits sociaux et même les droits des femmes soient alignés vers le haut. Que les salaires roumains ou bulgares soient 5 à 10 fois inférieurs aux salaires allemands ou français. Que Malte, Chypre, la Pologne ou l'Irlande continuent d'interdire l'avortement et que le gouvernement espagnol l'envisage sérieusement. Les dirigeants européens s'en moquent complètement. Parler d'Europe sociale, c'est bon pour les campagnes électorales, mais cela n'engage à rien. Même un droit aussi élémentaire que la libre circulation des personnes n'est pas complète aujourd'hui. Par exemple, pour les Roumains, pour les Bulgares et pour les Croates. Quant aux Roms, l'Union européenne ne leur laisse que l'étroite possibilité d'errer et d'être chassés d'un pays à un autre. Alors ce que les dirigeants européens ont appelé la construction européenne est une histoire de marchandage sordide où les travailleurs et les plus pauvres n'entraient absolument pas dans leurs calculs. Et comme toujours, ils n'étaient que voués à être exploités. Alors non, il n'y a rien, rien de rien à attendre de ces institutions européennes. Les institutions européennes ne sont rien d'autre que les instruments de la domination du capital. Mais comme le sont les institutions françaises. Et il est stupide d'opposer les responsables de Bruxelles ou d'Europe à ceux de la France. Ce sont les mêmes politiquement et même parfois les mêmes physiquement. Bruxelles ne prend aucune décision importante qui ne soit voulue ou du moins avalisée par les gouvernements nationaux. Au premier rang desquels il y a le gouvernement français. Quant à celui-ci, il ne prend aucune décision économique de quelque importance que ce soit sans que celle-ci ne soit elle-même avalisée par le grand patronat. Ceux qui prétendent que les coûts contre les services publics, contre les quelques articles de loi protégeant les travailleurs viennent de Bruxelles, des institutions européennes ou de Merkel, vise à dégager la responsabilité de chacun des gouvernements et à dédouaner ceux qui sont les laquais de la bourgeoisie. Non, Merkel ne mène pas Hollande par le bout du nez. Et ce n'est pas l'égoïsme allemand qui en fait baver à toute l'Europe. Les dirigeants français et allemands sont d'accord pour pour faire ce que les financiers leur demandent. Ils ont été d'accord pour étrangler les travailleurs grecs ou espagnols. Ils ont été d'accord pour imposer à tous les États des politiques d'austérité. Les peuples d'Europe, à commencer par les Grecs, les Portugais, les Espagnols, et les classes populaires des pays de l'Est, ont de quoi haïr cette Europe. Et ils ont de quoi s'élever contre les représentants européens les plus puissants. De la construction européenne, ils n'ont vu que les banques et les multinationales françaises ou allemandes se comporter en prédateurs. De l'Europe, ils n'ont vu que les huissiers leur demandant d'abandonner les maigres protections dont ils disposaient. Et ils n'ont vu que la crise les condamnant au chômage. Mais, encore une fois, l'Europe, l'Allemagne, la France, la Grèce sont des paravents derrière lesquels se cache la domination des industriels et des financiers de toutes origines. Et poser les problèmes en termes nationaux, c'est faire oublier qu'il y a des exploités et des exploiteurs dans tous les pays. N'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, l'Allemagne n'est pas ce pays de nababs retraités qui suce le sang des Français jeunes et productifs comme il le laisse entendre. L'Allemagne, c'est aussi des millions de travailleurs allemands, turcs, qui vivotent avec 700, 800 euros par mois tout en travaillant dur. Et regardez comment, après avoir accusé les Grecs de vivre au-dessus de leurs moyens, ils osent dire cela de nous aujourd'hui. Alors, être sensible à ce genre d'arguments nationalistes, quand il s'agit des Grecs ou quand il s'agit des Allemands, opposer les peuples les uns aux autres et ne pas voir les responsabilités de nos propres gouvernements, c'est se condamner à subir. Alors, à bas le nationalisme. Le Pen est sans doute celle qui crie le plus fort contre l'Europe. À l'entendre, tout est de la faute à l'Europe. La faute à la Commission européenne, à Bruxelles. Rien du patronat. Rien de la rapacité patronale. Le grand patronat, ses bénéfices, ses dividendes, l'exploitation et les bas salaires qu'il impose, cela n'existe pas pour elle. Parce qu'elle est complice. Pour Le Pen comme pour les autres, l'exploitation est dans l'ordre des choses. Elle est normale. Et les travailleurs sont voués à la subir. Le Pen fait de la démagogie. Elle plaint les travailleurs. Elle verse une larme sur les retraités modestes et sur les chômeurs. Mais elle n'a rien contre ce système qui les écrase. Plus Le Pen dénonce le diktat de Bruxelles, plus elle détourne la colère des travailleurs vers une voie sans issue. D'autant plus qu'elle contribue à distiller le poison du nationalisme et de la xénophobie et qu'elle divise et affaiblit la force des travailleurs. Eh bien, il ne faut pas accepter cette politique de division. L'ennemi des travailleurs, c'est le patronat. Et ce n'est pas la Commission européenne qui a soufflé, par exemple, à Gattaz, l'idée de payer les jeunes en dessous du SMIC. Quand Carrefour ou Auchan fixe des salaires de misère, impose des temps partiels, des horaires insupportables, ce n'est pas l'Europe. Quand la Redoute ou Fagor Brandt licencie, ce n'est pas l'Europe. Le carcan, ce n'est pas l'Europe. C'est la loi du profit. Et le verrou qu'il faut faire sauter, c'est ce pouvoir absolu de la bourgeoisie, des financiers. C'est cette dictature qui pèse sur les travailleurs, que ce soit à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. Les travailleurs conscients savent que toutes les institutions européennes sont leurs adversaires. Mais croire qu'inversement, l'État-nation nous protège est une erreur grossière. Croire que le repli sur les frontières nationales et le protectionnisme pourraient être d'un quelconque secours pour les travailleurs est un leurre. Le protectionnisme, qu'il soit xénophobe, version Marine Le Pen, ou prétendument solidaire, version Mélenchon, ou gouvernemental, version Montebourg, eh bien, ce protectionnisme forme un seul et même piège. Le protectionnisme, c'est d'abord des taxes en plus pour les consommateurs. Tout le monde se plaint des taxes et des augmentations d'impôts. Mais le protectionnisme, c'est un impôt supplémentaire sur tout ce qui est importé. Les produits bon marché, qui permettent justement aux plus pauvres de joindre les deux bouts seront surenchéris. Bien sûr que cela ne posera pas de problème aux riches, mais aux familles populaires, si. La baisse de l'euro, voire la sortie de l'euro, aura les mêmes conséquences. Car baisser la valeur de l'euro, c'est aussi augmenter le prix de tout ce qui est importé, et en particulier celui du pétrole. Pour tous les travailleurs qui hésitent aujourd'hui à faire le plein de carburant, ce sera plus difficile encore. L'objectif de toutes ces mesures protectionnistes est, nous dit-on, de remplacer les produits d'importation par des produits made in France. Dans l'idée que cela finisse, un jour, peut-être, par créer des emplois. Mais à condition que ces messieurs les capitalistes veuillent bien investir et trouvent un quelconque avantage à produire ces produits en France. Prenez le secteur du bâtiment, de la construction de logements. Il manque 1 million de logements dans le pays pour un salaire abordable. Eh bien, c'est un secteur qui est quand même relativement protégé de la concurrence. C'est du tout cuit pour les Bouygues, pour les Vinci et pour les autres marchands de béton. Mais ce n'est pas assez rentable à leur goût. Et ils préfèrent se lancer dans des partenariats publics-privés juteux plutôt que de construire les logements qui sont nécessaires. Alors faire croire que le protectionnisme, via des taxes ou la baisse de la monnaie, relancera automatiquement la production, l'industrie, la croissance et les emplois est une fumisterie. Et croire que l'on pourrait arrêter les importations tout en continuant nous-mêmes à exporter nos propres produits à l'étranger, c'est un véritable conte de fées. Ce protectionnisme, c'est la guerre économique. Une guerre économique renforcée où les travailleurs ne peuvent être que des victimes. Et même en admettant que le protectionnisme ou la baisse de l'euro fasse regagner des parts de marché à certaines entreprises, qu'est-ce que les travailleurs y gagneraient ? L'assurance que les licenciements et les fermetures d'entreprises cessent, la garantie que leurs salaires augmenteront, la garantie qu'ils n'auront plus à payer sous prétexte de rembourser la dette? Non, rien de tout cela. Le Pen, comme les autres politiciens bourgeois, veut faire croire que lorsque les entreprises auront retrouvé leur compétitivité et leur prospérité, cela ira mieux pour les travailleurs. C'est une escroquerie à double titre. D'abord parce que la compétitivité et les profits sont là. Et Le Pen, qui le cache aujourd'hui, fait diversion. Et puis, parce que rien n'a jamais été donné aux travailleurs. Même quand l'économie était prospère. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, les augmentations de salaire, les droits sociaux, eh bien ils les ont arrachés au patronat par les luttes et par le rapport de force. Eh bien demain, il en ira de même. Alors ne nous laissons pas détourner des combats que nous avons à mener. Les revendications pour sauver la peau des travailleurs et la politique sur l'Europe font partie d'un tout. Le programme de lutte des travailleurs et ses perspectives d'émancipation vont de pair avec l'internationalisme. Tout se tient, c'est le même programme, c'est la même vision communiste. Dans le combat contre la bourgeoisie, toute l'histoire du mouvement ouvrier montre que les travailleurs seront opposés non pas à une bourgeoisie nationale, mais à la bourgeoisie mondialisée depuis longtemps. Car la bourgeoisie elle-même a été, par la logique propre de son système, forcée à dépasser les frontières. Elle a étendu son système sur toute la planète. Et elle a, de fait, rapproché les peuples et uni les exploités dans un sort commun. Eh bien, il faut en faire une force. L'ouvrier français, roumain ou allemand vivent la même exploitation, le même diktat patronal, la même galère de logement, la même tutelle du banquier. Ils peuvent avoir le même patron. Alors, moins il y a de frontières, plus les occasions de tisser des liens sont nombreuses entre travailleurs, mieux c'est pour le prolétariat. La bourgeoisie mise sur la résignation, sur les préjugés nationalistes. Elle mise sur le fait que les travailleurs ne sauront pas réagir s'ils sont mis en concurrence les uns avec les autres. Eh bien, ne tombons pas dans le piège. Ayons une politique vis-à-vis des travailleurs nouveaux venus. Regroupons-nous. Les exploités peuvent retourner la situation à leur avantage à condition d'avoir la volonté de s'unir autour d'une politique qui représente leurs intérêts de classe, de revendiquer au nom de tous et de faire de leurs compagnons d'exploitation des compagnons de combat. Dans les élections du 25 mai, il faut que le camp des travailleurs qui s'est manifesté au municipal se fasse entendre à nouveau. Il faut que s'affirme l'existence d'une opposition ouvrière. L'existence d'un courant de femmes et d'hommes qui ne se résignent pas et qui défendent leurs exigences. Le vote lutte ouvrière permettra aux travailleurs de rejeter non seulement les politiciens au service de la bourgeoisie, à commencer par le gouvernement Valls-Hollande, mais de rejeter aussi l'ordre capitaliste lui-même. Il représentera sans ambiguïté les intérêts de classe des travailleurs, en affirmant que ce n'est ni l'unification européenne, ni l'euro que les travailleurs ont à combattre, mais la dictature des financiers. Il représentera le combat de tous les travailleurs contre toutes les oppressions, contre les restrictions à la liberté de circuler, contre la chasse aux immigrés, contre les expulsions de sans-papiers. Voter lutte ouvrière, qui se revendique du communisme, c'est prendre la position la plus radicale contre les organisations d'extrême droite, qui constituent une menace pour la classe ouvrière. C'est s'élever contre les préjugés réactionnaires xénophobes et racistes poussant sur le fumier d'une société capitaliste en crise. Voter lutte ouvrière, c'est opposer l'internationalisme à toutes les formes de démagogie nationaliste. Pour affirmer que le prolétariat d'Europe, avec ses composantes originaires de tous les continents, constitue une seule et même classe sociale. Pour affirmer la nécessité d'une société débarrassée d'exploitation, que seule pourra réaliser l'action collective consciente de la classe ouvrière de tous les pays, votez et faites voter pour lutte ouvrière le 25 mai prochain.